réplique, prose et poésie d'Ossip Mandelstam avec Véronique Schiltz et Jean-Claude Schneider. Le bruit du temps est une maison d'édition qui redonne confiance dans la vie intellectuelle. Après notamment l'immense poème épique de Robert Browning, L'anneau et le livre, et les œuvres complexes d'Isaac Babel, voici que paraissent en deux volumes somptueux la prose et la poésie d'Ossip Mandelstam. Je ne pouvais pas laisser passer une occasion si belle. J'ai donc invité celui qui a entrepris la retraduction de tous ces textes, Jean-Claude Schneider, et l'historienne d'art Véronique Schiltz, qui a aussi traduit le poète Joseph Brodsky. Avant d'entrer avec eux dans l'œuvre fascinante et difficile, je voudrais demander à ces deux grands lecteurs de nous dire ce qu'il faut savoir de la vie de l'homme dont nous venons d'entendre la voix. Jean-Claude Schneider.
Eh bien, Ossip Mandelstam est né en 1891 à Varsovie et il a été élevé dans une famille juive non pratiquante. Ses grands-parents pratiquaient, mais pas les parents. Il est venu ensuite, ils se sont déplacés, ils sont venus ensuite à Saint-Pétersbourg. Et puis, tout au long de sa vie, Ossip Mandelstam a vécu un peu partout en Russie parce qu'il a, il y avait des problèmes de logement, des problèmes de persécution aussi, qui l'ont amené à se déplacer à travers toute la Russie. Disons tout de suite qu'il est mort en 1938, alors qu'il allait être transféré à la Kolyma, au goulag de la Kolyma, et il est mort à Vladivostok, il n'a pas de tombe.
Oui, mais vous dites problème de persécution parce que très tôt, il a pris parti contre le bolchevisme triomphant en novembre 1918, si je me trompe pas, c'est-à-dire quelques jours ou quelques semaines après la prise du Palais d'Hiver. Il y a ces vers, justement, quand le favori d'octobre nous préparait un joug de violence et de haine. Il n'a pas aimé du tout la manière dont a été renversé Kerensky. Et puis il y a aussi cette chose très mystérieuse, c'est-à-dire il a écrit un épigramme contre Staline, en 30 ou 31, je crois, d'une violence inouïe. Et quand il le lisait à des amis, ceux-ci lui disaient, comme Pasternak, « Non, j'ai rien entendu, tu ne m'as rien dit, etc. » Parce qu'il y est allé très fort, non, Jean-Claude Schneider?
Bien sûr, bien sûr. Mais le problème des rapports entre Mandelstam et Staline, ou le bolchevisme, est assez compliqué. Et je crois que sa situation était très ambiguë, finalement. C'est ce que dit déjà le titre de Crépuscule de la liberté. Crépuscule, est-ce que c'est la fin ou du jour ou le début du jour? Allez savoir. Je crois qu'il laisse planer, peut-être exprès, tout de même, une certaine ambiguïté. Et par rapport à Staline aussi, puisque par la suite, il a essayé d'écrire une ode à Staline, qu'il n'est évidemment pas parvenu à accomplir, ou enfin qu'il a faite, mais qui n'est pas à la hauteur des autres œuvres, bien sûr.
Et notamment pas à hauteur de son épigramme, où il parle du montagnard du Kremlin, de ses doigts épais, gras comme des vers de terre, toute mise à mort, ce sont les derniers vers, et pour lui, délectation, et fait se dilater sa poitrine d'ossette. C'est d'une violence inouïe quand on pense en plus à l'époque particulièrement terrible où ce poème a été composé.
On suppose que Staline ne l'a jamais connu, ce poème. qu'aucune personne de son entourage n'a osé le montrer.
Oui, parce qu'il a d'abord été condamné à 3 ans de réclusion à Voronezh, et si il avait connu ce poème, Staline l'aurait fait évidemment exécuter, c'est ce qu'on
bien
peut
sûr,
penser.
Bien sûr. Enfin, il était toujours protégé quand même par
Boukharine.
Par Boukharine, voilà. Oui. Jusqu'à la disgrâce de Boukharine, bien sûr.
Véronique Schlitz.
Oui, on parle tout de suite, et c'est bien normal, puisque c'est quand même cela qui a marqué sa vie, des persécutions, de son rapport au stalinisme, et de tout ce qu'a été, de tout le calvaire qu'à certains égards a été sa vie. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il a eu la genèse d'un étudiant pétersbourgeois, plutôt joyeuse, plutôt même, on peut dire, légère. Et en même temps, il a vécu à 14 ou 15 ans une grande tentation révolutionnaire lui-même, puisqu'il fréquentait des milieux terroristes, qu'il a fréquenté les milieux SR, au point que sa famille, terrifiée par...
Les
socialistes révolutionnaires. Au point que sa famille, terrifiée, notamment sa mère, qui était pourtant très libérale, l'a envoyé manu militari, si j'ose dire, à Paris pour oublier tout cela. Sans d'ailleurs se rendre compte qu'à Paris aussi, il pouvait avoir de mauvaises fréquentations, mais il ne les a pas eues, et plutôt que la closerie des Lilas et Lénine, c'est le Luxembourg qu'il a fréquenté. Mais il y a toute cette première partie de la vie de Mandelstam, qui correspond d'ailleurs à un trait, à mon sens, extrêmement important de sa personnalité, qui est une jouissance de la vie, une capacité de légèreté aussi grande que tragique a été son destin.
Qu'est-ce que vous diriez, vous, de ces rapports avec le communisme triomphant, Véronique Schlitz? Y a-t-il une ambiguïté? Que penser de son ode à Staline? S'agit-il d'un effort désespéré pour rentrer en grâce parce qu'il a peur et il veut survivre? Comment penser tout cela?
Alors, je constate d'abord une chose, c'est qu'il a assisté, comme d'ailleurs des milliers et des milliers de Russes, à l'enterrement de Lénine, où il a précisément rencontré Pasternak. Ceci pour dire que les choses ne sont pas, en effet, d'une grande simplicité. En ce qui concerne l'ode à Staline, alors évidemment, il y a eu toutes les interprétations du monde. On peut penser que c'était vraiment une tentative d'ode à Staline. A-t-il été conscient ou non? Mais en réalité, on peut aussi lire ce poème comme un terrible procès de Staline. Parce que, est-ce qu'il en a été conscient? C'est difficile à dire, mais ça répond point par point au premier poème qui descendait en flèche, si j'ose dire, la figure de Staline. C'est-à-dire, ça commence aussi par un conditionnel. Je devrais bien faire le portrait de Staline, comme s'il y avait une réticence, et ça se termine aussi par l'image de l'ascète. Et vraiment, il y a une sorte d'ambiguïté profonde dans ce poème, qui est à la fois une ode à Staline, mais qui est à milieu des poèmes stalinistes de la même époque. Ça n'a absolument rien à voir. Et d'ailleurs, ceux qui étaient les mieux placés pour se méfier, c'est-à-dire ceux qui étaient susceptibles de le publier, s'en sont bien gardés. Ils se sont donc bien rendus compte qu'il y avait là quelque chose d'absolument empoisonné. Et en effet, pour moi, c'est une ode empoisonnée.
Alors, elle commence par ces vers. Que d'un charbon je m'empare pour l'éloge suprême, pour l'inaltérable joie de dessiner, je tracerai, en effet, au conditionnel, dans les airs, des angles inventifs, en demeurant précautionneux, angoissé, pour qu'à mes traits l'authentique réel se confonde dans un art à la frontière de l'audace, j'évoquerai celui qui bougea l'axe du monde sans léser les mœurs de 140 peuples. Et les derniers vers, c'est pour l'honneur, l'amour, la vertu, l'acier, il existe un nom célèbre aux lèvres serrées du récitant, nous l'avons entendu et vécu le même temps.
Et oui, il cite quelque part le nom de Djougachvili, voilà, que Staline ne voulait pas qu'on fasse. Oui.
Que je le nomme non Staline, Djougachvili.
Ce qui est une sorte d'injure pour Staline.
Oui, c'est quasiment. Ça, que je le nomme. Et c'est une injure parce que Staline voulait effacer ses origines
Oui,
donc c'est là où ça revient. Puis alors, il y a aussi, il y a un très bel article de Joseph Brodsky, donc vous connaissez intimement l'œuvre, Véronique Schlitz, et dans cette nécrologie, Brodsky nous met en garde contre une tentation un peu facile, celle qui consisterait à dire que la souffrance grandit l'art. Et que voilà, c'est un poète martyr parce que poète, et poète parce que martyr. Voici ce qu'écrit Brodsky. La souffrance rend aveugle, elle rend sourd, elle ruine et souvent tue. Ossip Mandelstam était un grand poète avant la révolution. Tout comme Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva, ils seraient devenus ceux qu'ils sont devenus, même si aucun des événements historiques que connut la Russie au cours de ce siècle n'avait eu lieu, parce qu'ils étaient doués. Fondamentalement, le talent n'a pas besoin de l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous reprendriez à votre compte cette réflexion de Brodsky?
Très sincèrement, oui, bien sûr que écrire sous la contrainte et dans la persécution mène quelque part, mais un génie comme Mandelstam, d'ailleurs on le voit bien à l'époque où il n'est pas persécuté encore, il arrive à parler de tout défile dans sa poésie, tout ce qu'on peut imaginer du monde, de Charlie Chaplin à la Grèce.
Léon Schlitz,
non, je pensais simplement que pour Brodsky, par exemple, cette ode à Staline qui se veut louangeuse et qu'il ne considérait pas justement comme louangeuse, il considérait en revanche que c'était un très beau poème de Mandelstam, c'est-à-dire qu'on peut le lire comme poème et pas seulement comme ode à Staline.
Peut-être maintenant, puisqu'il est temps d'entrer dans l'œuvre, pourriez-vous commenter le poème que nous avons entendu en russe, et évidemment c'était pas le meilleur des enregistrements possibles, le poème que récitait Ossip Mandelstam.
La nuit dernière, et je ne mens pas, à mi-corps dans la neige qui fond, j'ai marché depuis l'autre station. Là, une isba, je passe le porche, des moines boivent du thé salé, avec eux badine une tzigane. Au chevet du lit, elle ne cesse de jouer du sourcil, la tzigane, de tenir des propos pitoyables. Elle avait veillé jusqu'à l'aurore, disait « Donne-moi au moins un châle, donne-moi au moins la moitié d'un foulard. » On ne retrouve pas ce qui fut, table en chêne, couteau dans le sel, au lieu de pain hérisson ventru. C'est un poème qui, comme on le voit, est aussi peu politique que possible, bien sûr. Il occupe une place assez particulière, puisqu'il appartient au cycle des poèmes du livre de 1928, c'est un poème de 1925. C'était le troisième recueil de Mandelstam, et le dernier d'ailleurs à avoir été publié de son vivant, après Pierre et après Tristia. Et encore, ce troisième recueil, il a été sur une intervention personnelle de Boukharine, qui a protégé Mandelstam tant que lui-même n'a pas été englouti.
Ça aussi, c'est très intéressant, que cette amitié, pourrait-on dire, entre Boukharine et Mandelstam, parce que Boukharine, c'était le protégé, le préféré, le fils préféré de Lénine. Il a écrit l'ABC du communisme, donc on aurait pu voir en lui un idéologue complètement fermé à la poésie. Or, il y avait ce lien avec Mandelstam qui a duré presque jusqu'à la fin. Et quand Boukharine a été exécuté, Mandelstam n'avait plus aucune protection.
Et c'est vrai pour Boukharine, et d'une certaine manière, mais c'est un autre sujet que nous n'aborderons pas, c'était vrai pour Staline, parce que contrairement à ce qu'on pense, Staline n'était pas, ou du moins prétendait ne pas être totalement sourd à la poésie. En tout cas, c'est ce qu'il a dit, par exemple, quand Akhmatova est venue intervenir auprès de lui, etc., etc. En tout cas, ce poème occupe une place aussi importante, parce que c'est un poème d'amour, en fait. C'est un poème, Mandelstam a eu une compagne fidèle et merveilleuse auquel le liait un lien indissoluble. Ça ne l'a pas empêché dans sa vie d'avoir des élans d'amour. Et là, effectivement, c'était en l'occurrence une actrice, Olga Faxel, qui, on peut penser qu'elle apparaît sous les traits de cette tzigane. C'est aussi 1925, l'année de la publication du Bruit du Temps. Donc c'est une année où il se renvoie, si j'ose dire, vers ses souvenirs d'enfance les plus anciens. Et précisément, ce recueil, comme d'ailleurs le Bruit du Temps, mais surtout ce recueil, a été critiqué comme, je cite, « ne faisant pas corps avec la Révolution ». Et en effet, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas corps avant la Révolution. Et on peut le rapprocher par sa manière d'appréhender une cour quotidienne, un cadre quotidien, du célèbre poème qui d'ailleurs a été le déclencheur pour Philippe Jacotet, son intérêt pour Mandelstam, qui est « Je me suis lavé de nuit dans la cour », où d'abord il parle de seaux, de froid, de fontaines, d'eau, et puis le poème s'achève avec « plus pur est la mort, plus salé le malheur ». Autrement dit, on parle de choses extraordinairement concrètes pour arriver à une sorte de métaphysique de la vie. À certains égards, ça fait presque penser à un poète aussi sensible, nordique également, que Miloš.
Et il vous a posé des problèmes particuliers, ce poème, quand vous avez eu à le traduire, Jean-Claude Schneider?
Évidemment, la difficulté, c'était de retraduire un poème derrière Philippe Jacotet. Déjà, c'était une première difficulté. Mais je ne me suis pas soucié des traductions antérieures, évidemment, quand j'ai fait ma traduction. Il faut que je dise quand même que je suis venu à Mandelstam alors que je ne connaissais pas un seul mot de russe. et que j'ai appris cette langue pour le traduire, en quelque sorte, et pour répondre aux vœux de Claude Esteban, qui m'avait appelé à la direction de la revue Argile, et qui souhaitait que quelqu'un ouvre un peu l'horizon de l'Est, l'horizon de Slave.
Justement, là, je vais vous poser une question. Je me suis interrogé, je trouve votre entreprise tout à fait extraordinaire, très belle votre traduction, mais vous n'arrivez pas, évidemment, sur un terrain vierge. Philippe Jacotet a traduit quelques poèmes de Mandelstam, mais il y a aussi Louis Martinez, il y a également Edith Scherer, oui. Et puis François Querelle, oui. D'autres encore. Et moi, ça m'a posé un tout petit problème, parce que je ne connais pas bien Mandelstam, mais en préparant cette émission, j'ai trouvé cette phrase extraordinaire. La citation n'est pas un extrait, la citation est une cigale. Et il y a certaines cigales qui chantent en moi. Et vous les avez retraduites, ce qui me fait bizarre. C'est-à-dire, il y a une phrase que je considère comme une des plus belles de la littérature mondiale, mais je l'ai lue dans la traduction d'Edith Scherer. C'est le tout début, c'est l'incipit inouï du bruit du temps. Je me rappelle fort bien les mortes années de la Russie, les années 90, leur languissement, leur calme maladif, leur extrême provincialisme, cette once d'eau dormante, dernier refuge du siècle agonisant. Votre tradition n'est pas celle-là, évidemment. Elle est. J'imagine qu'elle est plus littérale.
Si vous voulez,
je me souviens bien des années sourdes de la Russie, les années 90, au lent mouvement rampant, au calme maladif, au provincialisme profond, une anse d'eau stagnante, silencieuse, le dernier refuge du siècle mourant. Et puis alors, une autre. Là, je ne sais pas si je retrouverai votre traduction, mais François Querelle a traduit Tristia, et c'est Elisabeth de Fontenay qui m'a fait découvrir ces vers. Vais-je à la médisance infâme, le gel comme avant sans la pomme, livrer le serment profond jusqu'aux larmes, la splendide promesse faite au quatrième état. Et la splendide promesse faite au quatrième état, moi, c'est une phrase qui me poursuit, que je cite régulièrement, notamment quand j'essaye de réfléchir à l'école et la manière dont cette promesse a été trahie par les réformes successives. Et votre traduction n'est pas la même. Et donc, je suis partagé, si vous voulez. Je me dis, mais il y a ces cigales, qu'est-ce que je vais donc en faire? Donc, comment avez-vous résolu ce problème? Et pourquoi, justement, cette entreprise, alors que des traductions belle existe déjà, Jean-Claude Schneider.
Eh bien, d'abord, à l'origine du projet, l'idée, c'était tout de même qu'il y ait une seule voix, toujours la même, qui traduise tous les textes. Voilà, c'est ça qui intéressait naturellement l'éditeur Antoine Jacotet. Pour ce qui est des traductions diverses, il me semble qu'une poésie d'une telle ampleur permet évidemment beaucoup de traductions. Dont chacune a ses mérites et sa valeur. Moi, je l'ai traduit, je l'ai traduit en pensant à Paul Celan, qui donc, dans les années 1966, je crois, ou 64, m'avait donné un de ses recueils, et en même temps, alors que je devais le traduire, et en même temps m'avait donné le recueil qu'il venait de traduire de Mandelstam, en me disant, il faut absolument que vous lisiez ce poète qui est pour moi comme un frère. Et donc j'ai lu Mandelstam en allemand, dans la traduction de Paul Celan, pendant des années, connaissant bien l'allemand, mais ne connaissant pas du tout le russe à l'époque. Et évidemment, c'est ça qui m'a retenu. Donc je n'ai eu envie que de traduire Mandelstam directement de la langue russe, et c'est pour ça que j'ai appris le russe à l'époque.
Donc vous avez appris le russe pour traduire Mandelstam?
Exactement. Pour traduire Mandelstam et pour aider, je vous dis, Claude Esteban à ouvrir un peu la revue Argile vers la poésie russe.
Oui, mais en même temps, ça demande une familiarité particulière avec le russe. La traduction d'un poète, et notamment d'un poète aussi difficile et parfois obscur que Mandelstam. Et vous pensez que cette familiarité, vous avez pu l'acquérir, Jean-Claude Schneider.
Bah, j'ai mis du temps, bien sûr. Ça s'est pas fait en quelques mois. Claude Estément m'avait laissé un petit peu de temps. C'était un projet que nous avions de longue date, donc ça a pris quelques années, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai abordé les premières traductions de Mandelstam en connaissant mal le russe. Et quand j'ai traduit l'entretien sur Dante, j'ai tout de même été aidé par Vira Linartova, qui était une tchèque qui maîtrisait complètement le russe et beaucoup de langues d'ailleurs, et qui m'a beaucoup aidé à l'époque.
Et depuis, vous avez acquis une familiarité suffisante.
Voilà, depuis je n'ai cessé de progresser.
Bon, c'est extraordinaire.
Je ne traduirai certes, mais vous savez, c'est de la poésie, c'est très particulier de traduire de la poésie. Je ne traduirai pas un roman policier. Pour moi, c'est certainement plus facile, étant donné mes connaissances du russe, de traduire de la poésie. De la même manière que je dis toujours, je pense qu'il est plus facile. Plus facile n'est pas le terme, mais il est plus... on arrive davantage à faire quelque chose quand on traduit, j'imagine quelqu'un qui traduirait du français en allemand ou en russe, c'est plus facile de traduire Mallarmé que de traduire Verlaine.
Ah, vous diriez ça.
Parce que Verlaine est trop simple.
Et
voilà pourquoi les traductions de Goethe, par exemple, en français sont si médiocres, je dois dire, ou même les traductions de Pushkin, parce que c'est trop simple. Et quand il y a une complexité, une telle richesse, une densité, un buissonnement de sens dans le poème étranger, on arrive plus facilement à creuser un sillon et à nourrir le texte.
Véronique Schiltz.
Il est très remarquable tout de même de relever que trois des plus grands poètes du siècle, enfin vous Jean-Claude Schneider, mais je pense aussi à Philippe Jacotet et à André Dubouchet, ont appris le russe ou se sont plongés plus profondément dans le russe à cause de Mandelstam. Oui. André Dubouchet, certes avec l'aide de son fils Gilles, mais pour le voyage en Arménie. Philippe Jacotet, certes avec l'aide de Louis Martinez, mais tout de même, il a fallu que cet appel de la langue soit d'une force extraordinaire pour qu'il se heurte tout de même à l'apprentissage une langue qui n'est pas simple. Et ensuite, enfin, en tant que lectrice, je dois dire que ce que je trouve particulièrement appréciable, et c'est un tour de force extraordinaire dans la traduction que propose Le Bruit du Temps, c'est qu'il y a à la fois une très grande fidélité au sens, très grande, et en même temps, une manière d'essayer de... Évidemment, on ne peut pas faire passer tout le rythme. Évidemment, on peut encore moins faire passer les rimes. Mais il y a ce côté... Donc vous avez parlé de Mallarmé. Et en effet, il y a quelque chose un peu mallarméen dans votre traduction. En ce sens, il y a une espèce comme ça de miroitement en dessous, de caractère minéral, compact, comme une sorte de pierre d'obsidienne, à la fois noire, dense et lumineuse.
Oui, j'ai pensé à Verlaine quand j'ai traduit les premiers poèmes tout de même Mandelstam.
Mais de toute façon, oui, voilà. Mandelstam lui-même était un grand amateur de Verlaine.
C'est ce que je voulais dire. Hein. Le premier recueil a quelque chose de très verlainien. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus accessible. Mais il y a une douceur, une fluidité verlainienne que, visiblement, votre traduction a très bien rendue. Donc, voilà, vous Mallarmé, mais aussi Verlaine, d'une certaine manière, est présent quand vous faites votre traduction, Jean-Claude Schneider. Mais maintenant, je voudrais que nous en revenions au Bruit du Temps. Peut-être une œuvre qu'on relit toujours avec énormément, beaucoup plus que de l'intérêt, une très grande admiration. Et Mandelstam, il parle de son enfance, de sa jeunesse. Et il y a cette notion, que j'aimerais que vous commentiez, de chaos judaïque. Et notamment... ce qui illustre ce qu'il appelle le chaos judaïque, je vais lire la dernière phrase du chapitre intitulé « Les émeutes et les Françaises ». La vigoureuse année russe au teint vermeil s'écoulait au rythme du calendrier. Eupin, sapin, patin d'acier finlandais, mois de décembre, traîneau du mardi gras, datcha. À cela se mêlait un spectre, le nouvel an en septembre, et d'étranges fêtes sans joie, dont le nom barbare déchirait l'oreille, Rosh Hashanah, et Yom Kippour. Alors que c'est
ça reflète bien, là encore, l'ambiguïté de la relation de Mandelstam à ses racines juives, qui s'explique entre autres par le fait qu'il était de deux mondes juifs complètement différents. D'une part, un père d'une judéité très traditionnelle, très respectueuse de la tradition, et peut-être même un peu trop. Et d'autre part, une mère, au contraire, du Nord, libérale, qui avait suivi le mouvement des Lumières juives, dont le nom m'échappe, mais
À la Haskala.
Voilà, exactement. Et ça, dans le texte que vous avez lu aussi, il y a une description absolument extraordinaire de la bibliothèque familiale où la vraie vie commençait au deuxième, au troisième et au quatrième rayon, alors que vers le bas, il y avait une bibliothèque pleine de livres poussiéreux avec des caractères crochus qu'on ne lit pas obligatoirement. Bref, toute une littérature hébraïque ou juive, qui est, parce que sa mère avait tout de même essayé de lui faire apprendre un peu d'hébreu, mais il avait très très vite renoncé. Et la vie commence dans les étages supérieurs de la bibliothèque pour lui, et le reste constitue une espèce de soubassement presque un peu hostile, ou en tout cas dans lequel il ne rentre pas vraiment.
L'étagère du bas, dans mon souvenir, offrait toujours une image de chaos. Mmh. Les livres n'y avaient pas leurs dos alignés, ils étaient couchés comme des ruines. Des pentateuques roussis, aux reliures en loques, une histoire juive écrite dans la langue, hésitante et maladroite, d'un talmudiste parlant russe. C'était le chaos judaïque précipité dans la poussière.
Et en même temps, il relève probablement avec un peu de peut-être même d'irritation, que la moindre, je le cite, la moindre parcelle de judaïsme sature la totalité d'une vie.
Jean-Claude Schneider, vous avez un
commentaire. Il évoque aussi la terreur qu'il a connue chez ses grands-parents, chez qui il a séjourné, oui, un jour où son grand-père voulait lui faire, je pense, réciter des prières ou quelque chose comme ça. Et il a été un peu... Bon, on sent qu'il a eu une attitude de retrait, là, bien sûr.
Mais... on ne peut pas s'arrêter là, parce que Mandelstam, il y avait chez lui quand même une certaine fidélité à ses origines. J'ai sous les yeux la biographie très belle de Ralph Dutkling, Mandelstam, mon temps, mon fauve, et il fait référence à une altercation très vive de Mandelstam avec un poète qu'au demeurant il admirait et qu'il a continué d'admirer, Klemnikov. C'était après l'affaire Baylis, hein, un juif de Kiev accusé d'avoir tué un jeune chrétien au cours d'un meurtre rituel. Et Malamud a consacré à cette histoire un très beau roman, L'homme de Kiev. Eh bien, il a fini par être acquitté, mais Klemnikov récitait un jour un poème dont certains passages étaient hostiles aux juifs, et il s'est mis à maudire Baylis. Et à ce moment-là, Mandelstam lui a dit « Je suis offensé en tant que juif et russe, j'exige réparation, ce que vous avez dit est une infamie. » Finalement, le duel n'a pas eu lieu.
Heureusement,
parce que il y a une tradition du duel mortel en Russie, donc on n'a pas voulu un nouveau Pouchkine. Le duel n'a pas eu lieu, mais cette fidélité, elle se reflète aussi dans un texte que j'ai découvert en lisant toutes vos traductions, Jean-Claude Schneider, le théâtre juif d'État de Moscou. Il dit, je vais en lire un court extrait.
Le premier paragraphe est très beau quand il évoque ce rabbin qui court dans la...
Dans un banal bourg de Biélorussie, grand village avec une briqueterie, une taverne, des jardinets et des chadoufs, un étrange personnage à longue basse qui jurait dans le paysage, en contraste absolu avec le paysage, franchissait en hâte des passerelles en bois. Par la fenêtre du wagon, j'observais ce piéton solitaire progresser tel un scarabée noir entre les maisonnettes. Il pataugeait dans la boue en écartant les bras et on voyait miroiter les pans blonds roux de sa redingote. Et un peu plus loin, il dit « Le théâtre juif proclame et prouve comme une certitude qu'un juif, jamais nulle part, ne cesse d'être une frêle porcelaine, ni ne se dépouille de son caftan aussi éminemment mince que spiritualisé. » Car un peu plus loin, en effet, de ce scarabée noir, il dit que c'était un piéton de porcelaine. Donc, il voit ce piéton, après il parle de Salomon Michaels et du théâtre juif, et il dit c'est la même chose, c'est le même univers qui se perpétue et qui a quelque chose d'éternel. Et on sait que Salomon Michaels sera assassiné, enfin un pseudo-accident de camion par Staline après la guerre. Donc Mandelstam n'a jamais renoncé au judaïsme.
Non, dans la...
Enfin, son identité juive, en tout cas.
Dans la quatrième prose, il y a d'ailleurs un texte, la quatrième prose, qui est un texte rageur d'une violence inouïe contre les écrivains. Il y a un paragraphe où il évoque ça. Il dit, j'insiste sur le fait que l'appartenance au milieu écrivain tel qu'il est devenu en Europe et singulièrement en Russie est incompatible avec la noble appellation de juif dont je m'enorgueillis. Mon sang, saturé par ce que lui ont légué des pâtres de moutons, des patriarches et des rois, se rebelle contre le gitanisme chapardeur de l'engeance écrivassière, etc. Donc il ne renonce pas du tout à ça. Il y a un triple héritage dans la poésie de Mandelstam qui est la Grèce, la Russie et le judaïsme.
Oui, c'est bien sûr qu'il assume parfaitement avec beaucoup de un respect extrêmement profond et probablement un lien affectif fort son judaïsme. Mais encore une fois, c'est vraiment, comme on l'a beaucoup dit et à juste titre, la nostalgie de la culture universelle, autrement dit, c'est un judaïsme qui n'est absolument pas du tout limité au judaïsme et qui s'ouvre, comme vous venez de le dire, non seulement sur la Grèce, mais sur le christianisme. Rappelons par exemple l'importance pour lui de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Rappelons pour lui la tradition médiévale occidentale. Et puis bien sûr l'antique, et puis bien sûr Homère, et puis bien sûr Pindare, qui sont à égalité. Et puis enfin, il y a quand même un trait biographique. D'ailleurs, on pourrait y faire allusion quand on cherche à comprendre ce qu'a été pour lui l'ode à Staline, c'est qu'à un moment donné, pour des raisons purement pratiques, pour des raisons complètement fonctionnelles, il s'est fait baptiser protestant de façon à échapper au numerus clausus et pouvoir rentrer à l'université de Pétersbourg.
Oui, alors, l'acméisme, qui était son école poétique, il l'a défini à un moment donné, justement, comme la nostalgie de la culture universelle. Et je voudrais qu'on parlions un peu. Qu'est-ce que signifie exactement la culture universelle pour Mandelstam? De quoi se sent-il véritablement l'héritier? Il a fait un voyage à Paris, on sait combien Verlaine a compté pour lui. Je crois qu'il a traduit Phèdre aussi.
Il a traduit Phèdre
de Racine. Mais voilà,
dites-en davantage. Il a traduit des poètes italiens. Et sa poésie, effectivement, évoque aussi bien Notre-Dame de Paris, Reims même, à un moment, et les potiers de Crète, et puis les collines de Toscane. Comme elle évoque la musique, la peinture, l'architecture qui compte énormément pour lui, et puis la Grèce, donc, qui aussi est prépondérante. C'est d'ailleurs pour ça, il existe un poème qui évoque le retour de Thésée. C'est pour ça qu'avec Antoine Jacotet, nous avons choisi pour couvrir le livre cette peinture de Sima qui représente le retour de Thésée en Tauride, lorsque Thésée a oublié de hisser la voile blanche et qu'il revient avec une voile noire, si bien que son père Égée se jette dans la mer qui porte dorénavant son nom. Et nous avons choisi ça pour illustrer un peu pour servir de couverture à Mandelstam et aussi parce que cette peinture présente dans le ciel des nuages qui sont des pierres, en fait, qui sont des rochers qui pèsent sur la Tauride comme le stalinisme pouvait peser sur la Russie.
Virgile?
Oui, il a visiblement un amour très profond et une connaissance très profonde d'Homère. Et il en parle de façon extrêmement... Il y a beaucoup d'allusions, enfin en tout cas des allusions au catalogue des vaisseaux, aux grues, à la métrique d'Homère aussi, qu'il cherche parfois à retrouver l'hexamètre dactylique à travers les pentamètres iambiques, enfin il essaye de se calquer quelquefois sur Homère. Et d'ailleurs, il y a par exemple, là c'était un bonheur de traduction de votre part extraordinaire, je lis l'un des vers, « Homère, la mer, tout par l'amour ému ». On retrouve, mais par les consonnes, alors que le plus souvent pour Mandelstam c'est par les voyelles, cette espèce de musique du vers qu'il n'a cessé de rechercher toute sa vie. Ou alors encore, c'est non seulement Homère, mais Pindare, dans « Ayant trouvé un fer à cheval », c'est vraiment les références à l'ode pindarique. D'ailleurs, c'est un des rares poèmes qu'il écrit en vers libre, comme si c'était une traduction d'un texte antique. Tout ça est dans un intérêt et un amour de la Grèce antique. Alors, il y a d'abord la vieille tradition russe, tout à fait emphatisée par Catherine II, que Pétersbourg doit prendre le relais de Constantinople. C'est-à-dire, c'est pas seulement la Grèce antique, c'est aussi la Grèce byzantine. Et d'ailleurs, il parle du mont Athos dans l'un de ses poèmes. Et puis, c'est aussi tout le monde, la tour des Vyatcheslav Ivanov, dans laquelle il rencontre tous ses contemporains poètes, et sur laquelle le grand héros, dans laquelle le grand héros était Dionysos, la pensée dionysiaque. Un Dionysos, d'ailleurs, en l'occurrence, autant nietzschéen que grec, mais tout de même Dionysos, puisqu'il s'habillait même, Vyatcheslav Ivanov à la grecque, et d'ailleurs, il allait même, il poussait la chose jusqu'à avoir des amours grecques, qu'il excusait auprès de sa femme en disant, mais je n'ai fait rien d'autre que Dionysos.
Belle excuse. Et puis, il y a la littérature, mais pas seulement. La musique et la peinture, qui jouent un rôle très important pour Mandelstam, notamment dans Le Voyage en Arménie. On trouve un chapitre intitulé « Les Français », qui ne concerne pas directement l'Arménie, mais une visite...
à la collection Choukine.
À Moscou.
À Moscou.
Oui, là. Oui. Et là, il s'enthousiasme pour la peinture française. Salut Cézanne, sympathique grand-père, travailleur assidu, sublime clan des forêts françaises. Sa peinture authentifiée sur la table de chêne d'un notaire de campagne. Lui, immuable comme un testament rédigé, en pleine santé mentale, par une mémoire sans faille. Et je suis, quant à moi, envoûté par une nature morte du vieillard, coupée sans doute le matin même, des roses, charnues et lisses, couleur de thé particulièrement jeune, ni plus ni moins que des boules de glace jaune à la chantilly. Et puis... Là, c'est l'arbitraire de la subjectivité. Il nous dit « Je n'ai pas aimé Matisse, un artiste pour Richard. Hein? Le rouge de ses toiles est un sifflement de soude, la joie des fruits gorgés de sève lui est étrangère. Et puis, je n'ai que faire de ces tapis d'échiquier et de ces odalisques. » Je n'adhère pas à cette critique personnellement, mais il est très inspiré pour ce qu'il aime. Signac a inventé le soleil des maïs. Chaque salle a son atmosphère, dans celle des Claude Monet, l'air est fluvial, etc., etc.
Et la phrase après, « Regardant l'eau de Renoir, tu sens pousser des ampoules sur tes paumes éprouvées par le frottement des avirons. »
Que faut-il penser de cette place de la peinture dans la vie et donc l'œuvre de Mandelstam?
Je trouve qu'il a déjà un art remarquable pour arriver à évoquer toute l'œuvre d'un peintre en quelques mots, et c'est vrai, même le sifflement de soude de Matisse, c'est tout de même, même s'il est critique, c'est tout de même quelque chose qui lui correspond assez bien, effectivement. Quel art, quand même, quel art du regard chez Mandelstam. D'ailleurs, il faut dire que sa poésie et toute son écriture fait tout le temps appel au regard. On l'a vu tout à l'heure avec la scène du rabbin qui courait le long de la voie ferrée. Il a une manière de regarder et de faire sentir à son lecteur ce qu'il a vu. Il va même parfois jusqu'à faire sentir des odeurs, jusqu'à faire sentir le toucher des choses. Et c'est vrai que tout cela se retrouve chez lui dans le mot, et voilà pourquoi aussi, sans doute, le mot qui évoquait des choses concrètes chaque fois pour lui et les choses, voilà sans doute pourquoi il s'est opposé au symbolisme qui, pour lequel une chose était toujours le symbole d'autre chose. Et ça, Mandelstam a eu des mots très violents contre le symbolisme parce que, pour lui, le mot, c'est la chose. C'est la chose. Et j'ai relevé dans un article de Niva qui est paru samedi dernier, au sujet de cette édition d'ailleurs, il écrit, Niva, qui est le grand représentant des lettres slaves en Suisse, mais peut-être aussi un peu en Europe pour tous les slavisants, il dit « Le lit naturel de sa poésie, c'est la saisie du monde dans un elliptisme extraordinaire. Ses écrits, prose comme poésie, ont une unité presque cristallographique, forment un polyèdre mystérieux, mal déchiffrable et évident. » Il me semble qu'il y a là une définition très ramassée de Niva qui condense bien la poésie de Mandelstam.
Oui, Véronique Schiltz.
Oui, c'est tout à fait exact. Et pourtant, ça n'est pas un hasard si quand il condamne Matisse, il le condamne avec l'idée d'un sifflement, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas visuel, mais auditif. Et dans ce que vous dites, il est très sensible au tableau de la vie et aux choses, peut-être plus encore même qu'aux couleurs. Et d'ailleurs, et quand même dans Silentium, il y a cette extraordinaire formulation « Et toi, mot, retourne à la musique ». Et je pense quand même que si on devait établir une hiérarchie des perceptions chez Mandelstam, c'est l'oreille qui sans doute dominerait, la musique qui sans doute dominerait.
La musique qui dominerait, critique du symbolisme, dites-vous Jean-Claude Schneider, et ça me fait penser peut-être à tort, à ce chapitre du bruit du temps, consacré à un de ses professeurs, celui qui a été le grand intercesseur pour lui, Vladimir Hippius, chez lequel il a puisé cette notion de rage littéraire. La rage littéraire plutôt que la littérature. Il avait avec la littérature, dit-il de Vladimir Hippius, un rapport bestial, comme s'il puisait là toute la chaleur animale. Il se chauffait à la littérature, se frottait contre elle avec son pelage, avec les soies de sa chevelure rousse, de ses joues parasées. C'était un Romulus qui haïssait sa louve et qui, dans sa haine, apprenait aux autres à l'aimer. Et il dit « Quel chant j'ai eu de m'attacher plutôt qu'à la flamme d'une lampe sacerdotale, au rouge tison de la rage littéraire. » Il a découvert chez Hippius ce qu'il appelle la rage littéraire.
Et il l'a retrouvé ensuite chez André Chénier, parce que ce qu'il apprécie chez Chénier, c'est exactement cela, c'est-à-dire une poésie apparemment froide, très abstraite, mais, et là je le cite, pénétrée de fureur antique. Et cette espèce de synthèse entre une façade classique, mais qui cache la violence, je pense que c'est quelque chose qui lui est vraiment propre.
Alors, je voudrais maintenant peut-être que nous interrogions sur le destin de son œuvre. On a parlé au tout début brièvement de sa vie, qui s'est arrêtée dans ce camp de transit en 1938. Il était lui-même en proie à des hallucinations, il était quasiment devenu fou. Et que s'est-il passé après pour lui? Je crois que Nadiezhda Mandelstam a joué un très grand rôle pour sauvegarder son œuvre. Comment a-t-elle fait?
Doublement décisive, parce que d'abord, matériellement, elle a essayé de sauver autant qu'elle pouvait le faire, en les cachant, les distribuant, en les prenant avec elle, tous les manuscrits qui pouvaient avoir subsisté. Et surtout, elle a fait quelque chose d'absolument incroyable. Et là, pratiquement, elle savait par cœur toute l'œuvre de Mandelstam. Moi, je dois dire, enfin, c'est un peu personnel, mais il se trouve que je l'ai connue à Moscou et c'est par elle que j'ai découvert Mandelstam, parce qu'à l'époque, je savais à peine le russe, enfin tout ça m'est tombé dessus avec une force d'autant plus convaincante que ça passait évidemment par ce personnage extraordinaire qu'elle était. Parce qu'après 28, il n'y a pratiquement plus rien eu et il y a eu une espèce de barrage total, puisque le pouvoir à partir de 32 est à l'Union des écrivains. Et que d'ailleurs, c'est au secrétaire de l'Union des écrivains qu'il doit sa perte, parce que c'est lui quand même qui, au moment de la célèbre Iéjovchina, des répressions les plus terribles, écrit à Iéjov « Surtout régler le problème Mandelstam ». Ça veut dire une condamnation à mort. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement impressionnant. Il n'y a que le voyage en Arménie qui a été publié ensuite en revue et qui est tout de suite fait l'objet d'une campagne qui portait moins sur le texte que sur l'auteur. C'est-à-dire que c'est quand même un comble. À propos du voyage en Arménie, il y a une campagne antisémite. C'est tout juste si le procès des blouses blanches ne concernait pas le voyage en Arménie. Et donc, c'est vraiment Nadiezhda qui a fait survivre et quelques autres amis, d'ailleurs des femmes pour les qui ont fait survivre son œuvre. Et la première édition un peu complète a été l'édition américaine de 71, en trois volumes, alors même qu'à Moscou est sorti en 74 un livre dans la collection de l'écrivain soviétique, ce qui est quand même un comble. Et c'est un livre absolument fascinant, parce que le texte est bien établi. Les textes lui-même sont là, mais naturellement, ce sont des textes choisis et très expurgés de tout ce qui pourrait gêné. Et surtout, il y a une préface absolument insensée dans laquelle on arrive à faire la biographie de Mandelstam en évacuant complètement les persécutions et les conditions de sa mort. Mais enfin, le livre existait. Je me rappelle très bien, à l'époque, il coûtait 1,40 rouble, ce qui n'était rien, sauf qu'on ne le trouvait pas. Il n'était en vente que dans les boutiques en devise et à l'étranger. C'est donc bien aussi cette manière de publier les choses sans les publier.
Il est édité en Russie sous une forme normale depuis la perestroïka, c'est
ça ? Alors depuis, bien sûr, il a été édité, réédité. Enfin, d'une certaine manière, le malheur de Mandelstam, c'est que maintenant, il est devenu très accessible et ceux qui aiment la poésie peuvent le lire et on le trouve véritablement partout. Sauf que ceux qui aiment la poésie, qui lisent la poésie depuis la perestroïka se font rares, comme partout d'ailleurs, je crois, puisqu'il n'y a plus du tout cette même, sanctification de la poésie qui existait avant. Mais c'est quand même très fréquent. Par exemple, le même metteur en scène, Serebrennikov, qui a été refusé de visa pour Cannes parce qu'il a fait un film sur le jazzer Tsoï, il a monté un spectacle à partir de Mandelstam. Je ne sais pas du tout ce que vaut ce spectacle, peut-être qu'il est détestable, mais c'est quand même extrêmement significatif qu'il y ait eu, de la part d'un metteur en scène très en vogue, si j'ose dire, et en même temps contestataire, un spectacle sur Mandelstam.
Oui. Alors, nous reviendrons sur la situation actuelle en Russie et ailleurs. Quant à la poésie, un mot simplement sur Nadiejda Mandelstam. Je me réfère encore une fois à ce texte magnifique de Brodsky. Elle dit que tout papier était dangereux, donc elle n'écrivait pas. Et elle dit ce qui renforça ses liens conjugaux, après la mort même de Mandelstam, ce fut un point technique, la nécessité de confier à la mémoire ce qui ne pouvait être confié au papier, c'est-à-dire les poèmes de Mandelstam et aussi d'Akhmatova. Et elle dit, elle ne fut certainement pas la seule à agir ainsi, Nadiejda Mandelstam, à cette époque pré-Gutenberg, selon l'expression d'Akhmatova. Et il ajoute, Brodsky, s'il existe un substitut à l'amour, c'est la mémoire. Graver dans sa mémoire revient donc à rétablir une intimité. Et c'est ces vers qui ont constitué progressivement l'identité de Nadiejda Mandelstam. Mais précisément, dans son recueil de la poésie, Mandelstam parle de l'esprit antiphilologique qui se répand, et il a cette phrase « L'Europe sans philologie n'est même pas l'Amérique, c'est un Sahara civilisé auquel Dieu a jeté un sort, l'abomination de la désolation ». Alors j'aimerais savoir ce qu'il faut entendre par là. Qu'est-ce que c'est pour Mandelstam l'Europe sans philologie, et est-ce dans cette Europe que Russes et Français et tous les Européens sont aujourd'hui amenés à vivre, quand vous dites par exemple que il n'y a plus de public pour la poésie?
Je ne suis pas. Enfin, c'est pas facile de comprendre jusqu'au bout ce qu'il entend par là. Mais je pense tout de même que derrière ça, il me semble que peut-être derrière ça, il y a le fait que, par exemple, une de ses occupations préférées quand il était à Paris, c'était d'aller écouter les cours de Bédier au Collège de France sur toute la tradition médiévale. Il a écrit des choses absolument merveilleuses, naturellement, sur Villon. Il a traduit la chanson de Roland. Il a été très attaché à cet aspect. Oui, presque. Cet aspect philologique, finalement, de l'ancien français. Peut-être il y a ça. En tout cas, il y a sûrement en partie ça.
Et à Heidelberg, il a étudié les langues romanes aussi. Il a poursuivi cette étude.
Alors, je voudrais lire une dernière fois Brodsky. Donc, il dit que l'identité de Nadiejda Mandelstam a été formée par la culture et par ses meilleurs fruits, les poèmes de son mari. Et elle fut, dit-il, la veuve de la culture, et je pense qu'elle aima son mari davantage à la fin qu'au jour de leur mariage. C'est sans doute la raison pour laquelle les lecteurs de ces livres les trouvent si poignants. Et puis, ajoute-t-il, et là je demanderai un commentaire, parce que la condition du monde moderne face à la civilisation peut elle aussi être définie comme un veuvage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette nostalgie de la culture universelle ressemble-t-elle à un deuil aujourd'hui?
Probablement, dans la mesure où, en tout cas dans la Russie actuelle, incontestablement, une forme, enfin c'est très banal de le dire, mais il y a une forme de matérialisme, pour dire les choses brutalement, qui a envahi tout. Il est certain que, bien sûr, il est resté des amateurs de poésie. Bien sûr, la poésie, probablement et globalement, garde une place plus importante qu'en Occident, vraisemblablement. Quand même, oui. Mais en même temps, ça a extraordinairement chuté. Vous savez, il n'y avait pas, au moment où les poèmes de Mandelstam ont commencé à se répandre, c'était à l'époque du samizdat, on ne pouvait pas avoir accès à des photocopieurs, par exemple. Et donc, les gens recopiaient à la main. C'est quand même quelque chose. Les poèmes circulaient parce que les gens les recopiaient à la main. On racontait par exemple cette histoire qui me paraît très révélatrice d'une femme qui avait recopié Anna Karénine et son ami lui dit « Mais c'est édité, pourquoi le recopies-tu ? Parce que sinon ma fille ne le lira pas, elle ne lit que du samizdat. » Donc il y avait cette espèce de culture aussi secrète, clandestine, qui à certains égards valorisait les choses et les valorisait d'autant plus qu'on investissait sa propre plume, son temps passé. Et franchement, je crois que d'une certaine manière en Russie, Mandelstam n'a jamais été placé aussi haut qu'au moment où ses poèmes se diffusaient de cette façon-là.
Vous êtes d'accord, Jean-Claude Tudère ?
Ah oui, je pense. Mais moi, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et vous pensez que ça a chuté à ce point-là quand même ?
Je le crains.
Parce que je me souviens que, bon, Gil Vic me disait encore, il n'y a pas si longtemps que comme ça qu'il a disparu quand même, que, bon, mais ça fait quelques années, mais oui, alors les choses auraient changé depuis
Mais je parle des 20 dernières années.
Oui, ah oui, d'accord. Parce que Gil Vic me disait que, bon, il avait beaucoup plus de lecteurs en Russie qu'il n'avait en France.
Oui, mais pas seulement la Russie, parce que Mandelstam cite cette phrase extraordinaire de Goumiliev. On dit Goumiliev ?
Goumiliev.
Hein, oui. De Goumiliev, le premier mari d'Anna Akhmatova.
Akhmatova, oui.
Où les gens sont des livres, où ce sont des journaux.
Oui.
Très belle, très très belle phrase, mais on peut se demander à l'ère des écrans, des portables, etc., s'il n'y a pas une troisième catégorie qui émerge et qui met d'accord ceux qui sont des livres et ceux qui sont des journaux. Et c'est peut-être aussi de cela que l'Europe souffre aujourd'hui. Et voilà pourquoi la nostalgie de la culture universelle peut avoir quelque chose de poignant. En tout cas,
Nous sommes peut-être dans une période de transition. On verra ce qu'il en sortira plus tard. Peut-être qu'il y aura effectivement cette mixité des livres et des journaux et
donc, qu'on arrivera. Vous ne voulez pas terminer sur une note trop pessimiste ?
Moi, je crois qu'à chaque époque, il y a eu des inquiétudes et puis les choses se sont remises en ordre. Il y a eu la réaction contre l'époque précédente, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut l'espérer, en tout cas.
Bon, bah très bien. Nous terminons sur cette note d'espérance.
Une note d'espérance à laquelle, quand même, il faut, me semble-t-il, ajouter que même si on n'y a pas accès en russe, la poésie de Mandelstam et à coup sûr sa prose qui est plus accessible, lire ces deux volumes véritablement transforme la vie. Je crois vraiment que ça change complètement l'appréhension du monde que d'avoir lu ces deux volumes.
Formidable. Merci de le dire, Véronique Schiltz. Alors, je rappelle que ces deux volumes, œuvres en prose et œuvres poétiques, sont édités par Le Bruit du Temps et La Dogana. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Alain revisité. Mes invités seront Emmanuel Blondel et Michel Onfray. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Alain Joubert, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.